Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Née en 1975, Priscilla Telmont a pris goût à la lenteur, aux routes poussiéreuses et aux détours imprévus, en rendant hommage à la beauté et au mystère des contrées reculées. Journaliste et photographe, elle fait partager sa passion de l'aventure et des horizons lointains à travers des films, des reportages et des livres. Priscilla nous raconte son périple sur les traces d'Alexandra Davinel. Ce voyage l'a conduit en 6 mois, du Vietnam à l'Inde à travers le Yunnan, le Tibet et le Sikkim.
C'était un voyage hommage, parce qu'en fait Alexandra, c'est elle qui a pas déterminé ma vie de voyageuse, mais en tout cas en grande partie. Quand j'ai découvert son livre, Le plus célèbre voyage d'une parisienne à la sage, j'avais 14 ans. Et ça a été un peu un foudroiement, comme on peut avoir des livres qui deviennent vraiment des amis, des complices. Et on a une sorte de reconnaissance intime avec l'auteur qui a écrit ses livres. On a le sentiment vraiment de poser des phrases qui parlent à notre âme. Et ce livre était vraiment un livre ami. C'est-à-dire que quand j'ai lu Alexandra, j'ai été vraiment foudroyée en me disant « Mais c'est fabuleux, c'est magnifique, quelle beauté !» Et je me suis toujours promis de lui rendre hommage en me disant, mais si cette femme à 56 ans en 1924 a réussi à faire un tel voyage, à une époque où les femmes étaient des mères au foyer, où on balbutiait un petit peu encore le mot de féminisme, et c'est vrai qu'Alexandra a été une des premières grandes aventurières à s'affirmer un peu hors des sentiers battus, en étant avec cette polyvalence d'être orientaliste, cantatrice, écrivain, cartographe, exploratrice, à une époque où on considérait que l'orientalisme se faisait dans les hautes études du musée Guimet, et Alexandra n'a jamais passé un diplôme. C'était pour elle l'étude de terrain et d'apprendre les textes, d'être auprès vraiment des maîtres qui étaient pour elle sa vraie école. Donc j'ai mis quelques années depuis 14 ans avant de faire ce voyage, mais c'était une évidence que quand le moment serait venu, je partirais d'Hanoï symboliquement, d'où Alexandra a commencé ses grands voyages en Asie quand elle était cantatrice encore, chanteuse d'opéra, où elle a chanté à l'opéra d'Hanoï. Et je trouvais ça très joli de faire une sorte de voyage d'une mer à l'autre, de partir du golfe du Tonkin jusqu'au golfe du Bengale en passant par Lhasa. Voilà, d'une mer à l'autre, c'était très joli. Et donc je suis partie de Hanoï, remonter les grandes forêts jungles du nord Vietnam, gagner le Yunnan en remontant les grands fleuves d'Asie qui prennent leur source au Tibet, et gagner la petite chapelle catholique française d'où Alexandra est partie un beau jour de 1923 avec Afour Yongden, son fils adoptif qu'elle avait rencontré quelques années auparavant dans ses années au Sikkim. Et de là, j'ai vraiment pu me mettre dans les pas d'Alexandra, de ce voyage incroyable où elle était déguisée en mendiante tibétaine et gagner la haute citadelle des dieux et du toit du monde déguisée en mendiante parce que le Tibet s'était refermé aux étrangers, que par 5 fois elle avait tenté de gagner le Tibet et qu'elle avait été repoussée aux frontières. Et que la seule idée qu'elle avait eue lui avait été donnée par un de ses amis japonais, prêtre, qui lui avait dit « Mais fais comme moi, déguise-toi en mendiant, te, et pars sur les routes et tu passeras incognito comme ça. » Et c'est ce qu'elle a fait en étant accompagnée par Afour Yongden, qui lui parlait un tibétain courant, donc beaucoup moins académique que celui d'Alexandra, qui aurait été tout de suite soupçonnée par ce langage qui était vraiment curieux pour les Tibétains. Et Alexandra, en étant sous l'apparence d'une vieille mère avec son fils, a pu déjouer tous les soupçons et gagner Lhasa. Donc ce qui m'intéressait, c'était vraiment de parler du Tibet d'aujourd'hui au regard de l'expédition d'Alexandra 80 ans plus tôt, et comment, avec l'histoire qu'on connaît et ce tournant dans l'histoire en 1950 avec la révolution culturelle, comment tout d'un coup tout a vraiment changé pour ce toit du monde, et pourquoi il est toujours aussi difficile d'y voyager pour d'autres raisons. C'est plus les Britanniques qui empêchent de gagner le Tibet, mais maintenant les Chinois, et avec un génocide culturel et religieux qu'on sait terrible. Donc j'avais très envie de faire ce voyage dans ses pas. Donc c'était à la fois un double voyage, l'un dans la poussière des pistes de mon aventure personnelle et puis celui à travers le livre de la Grande Dame et d'essayer de montrer la permanence des choses, en tout cas religieuse, qui est vraiment très forte, qui est le socle de, un peu de la révolte tibétaine, et puis au contraire ce qui a complètement évolué, ce qui a changé depuis 1924. Donc j'ai gagné le pèlerinage sacré du Kawa Karpo d'où Alexandra est rentrée au Tibet en clandestin. Et de là, la vallée du Kham jusqu'à Lhasa. Et de Lhasa, je suis redescendue au Sikkim. La frontière entre le Sikkim et l'Inde est toujours interdite. Donc il a fallu faire tout un détour de 2000 km pour regagner l'autre côté de la frontière. Comme je suis d'origine bretonne, mes parents sont bretons et j'ai un peu du granit. Même si je suis née à Paris, je me sens très bretonne de sang et de souche. Et donc du coup, j'ai fait ces 2000 km de détour jusqu'à l'autre côté de la frontière pour regagner mon itinéraire à travers le Sikkim jusqu'à Calcutta. Donc en longeant les chemins de fer du Bengale, j'ai terminé mon voyage à Calcutta, Ganga Sagar exactement, au bord du delta du Gange, d'où les cendres d'Alexandra ont été dispersées en 1974, voilà, dans le soleil d'un matin, une petite Kumbh Mela qu'il y avait. Donc c'était un très beau voyage. Ouais.
As sure as the river runs to the sea, one day, one day, one day, the land of snow, Tibet will be free, one day, one day, one day. And if you can see it in your mind, there's no stopping what will be. Picture it, know it's true, Tibet will be free, Tibet will be free.
Pied, forcément, c'est des peuples qui sont des peuples de marcheurs, donc pour pouvoir un peu sortir des sentiers battus, c'est vrai que quand vous êtes sur des chemins de pèlerinage, que vous êtes dans des montagnes, vous pouvez pas faire autrement qu'être à pied. Donc il me semblait, oui, ça pouvait pas être autrement, ce voyage, il devait être à pied, donc j'allais pas faire une partie à vélo, une partie à cheval, une partie, donc j'ai fait tout à pied pendant pratiquement plus de 7 mois. Et puis, c'était à peu près 5000 km et des poussières à pied, mais finalement c'est pas tant les kilomètres, c'est pas tant le voyage à pied, c'est pourquoi on le fait. C'était vraiment pour être au plus proche des gens, de la rencontre, de partager ce quotidien de pèlerinage au Tibet qui est quand même vraiment, comme je le disais, le socle de la foi. Et donc je me voyais pas faire ce voyage autrement. Et ça a été fabuleux parce que, encore une fois, de voyager lentement, de voyager à pied, on fait pas du tout les mêmes rencontres, on va pas du tout par les mêmes endroits, par les mêmes chemins. On se retrouve dans des endroits complètement perdus, où aucune voiture, vélo, moto est accessible. Donc ça rend tout de suite les rencontres très fortes quand on se présente au pied d'un village. Quand les gens, d'un coup d'œil, savent que vous avez mis parfois un mois pour gagner leur village et qu'ils savent très bien que la première route est à un mois en voiture, avant même de commencer à discuter, il y a un rapport de complicité, d'égalité qui se fait tout de suite. Donc on se retrouve avec une complicité, une intensité de rapport à l'autre qui est très fort. Et avant même de commencer à dire « mais qu'est-ce que tu fais là ?» c'est « viens dans ma maison, bois un thé, repose-toi ». Donc c'est vrai que le voyage en lenteur donne cette complicité, ce rapport, cette capacité de pouvoir sentir vraiment le pouls d'un pays battre et de le sentir beaucoup mieux. Moi qui a commencé par des reportages très courts dans mes premières années un peu bouillonnante, adolescente, à 18 ans, où j'avais qu'une envie, c'était de partir aux quatre coins de la planète. Et je partais 15 jours, et voilà, on est jeune, on est très naïf, on pense qu'on comprend les choses comme ça, en passant 15 jours dans un pays, mais on comprend rien, on effleure à peine, on est juste dans la superficie d'une petite compréhension d'un pays. Donc le fait de voyager après, en lenteur, de faire des voyages longs, dans le temps, dans le déplacement, dans les voyages au long cours, c'est vrai que vous sentez vraiment le palpiter à tous les niveaux et vous comprenez vraiment la cosmogonie d'un pays. Donc ça, c'était pour moi très évident que de faire ce voyage à pied.
On va s'intéresser un peu à Lhasa. Donc, quelle était l'image que tu avais de Lhasa à travers les lectures que tu avais eues des bouquins d'Alexandra, et quelle situation tu as trouvée en arrivant là-bas?
C'est toujours le problème, c'est-à-dire que ça, on se l'est souvent dit avec Sylvain, que de voyager à travers des textes anciens, c'était parfois une mauvaise nostalgie. Parce que on s'attend comme ça à avoir des caravanes de chevaux, de chameaux de Bactriane, et puis on ne voit que des constructions post-soviétiques dans la poussière des lointains. Alors Lhasa, déjà Alexandra se plaignait en 1924 quand elle gagne Lhasa et qu'elle y passe deux mois, qu'il y avait des casseroles chinoises sur les marchés. Elle s'est dit, mais je traversais tout l'Himalaya pour voir des casseroles sur les marchés, c'est scandaleux quoi, ça y est, c'est fini Lhasa. Alors quand je suis arrivée évidemment près d'un siècle plus tard, intérieurement, et même je lui parlais beaucoup pendant ce voyage, hein, donc j'ai dit, mais regarde ce qui est devenu Lhasa, moi elle le savait bien avant que j'y arrive, mais en étant à dire, mais qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui? C'est vrai que c'est vraiment Lhasa la chinoise, ça se transforme tellement chaque semaine qui passe, transforme cette ville qui est devenue vraiment voilà, un des lieux du gouvernement de Pékin, qui est un lieu stratégique. Le train maintenant permet à des millions de Chinois de venir chaque jour. C'est tout le quartier, le vieux quartier tibétain autour du Jokang est en train de disparaître, et toutes les vieilles maisons sont en train d'être détruites pour être remplacées par des hôtels. Donc c'est très triste de constater ça, parce que forcément quand on arrive à pied, on a passé des mois avec les Tibétains, on sent toute la tension et puis évidemment toute la cristallisation de cette tension souterraine qu'il peut y avoir entre les Chinois et les Tibétains. Et encore une fois, je ne fais pas du tout la dichotomie entre les gentils Tibétains et les méchants Chinois. C'est beaucoup plus complexe que ça. Il y a énormément de Chinois qui sont pour l'autonomie du Tibet et beaucoup de Tibétains qui sont pour la situation qui existe là actuellement au Tibet. Donc c'est vraiment juste la souffrance, la violence. Véritablement tous ces dissidents qui sont chaque semaine ou enfermés ou mis en prison si c'est pas exécuté, comme on le voit sur les murs de Dharamsala qui est devenu voilà, la maison du Dalai Lama depuis plus de 50 ans avec des milliers de Tibétains qui l'ont suivi. Sur les murs autour du monastère de sa sainteté, on voit chaque semaine voilà, le portrait de Tibétains qui vont être exécutés. Donc la répression est vraiment très forte. Quand on arrive à Lhasa, évidemment, on n'est pas témoin, sauf en 2008, là, quand il y a eu les Jeux Olympiques et qu'il y a eu les dernières grandes révoltes des moines et puis de la jeunesse un peu bouillonnante comme ça, tibétaine, où il y a eu des révoltes très fortes et bon, le Tibet, de toute façon, était fermé aux étrangers. Il y avait peu de personnes qui ont pu témoigner de ce qui s'y passait, à part tout ce qu'on a pu avoir envoyé par les Tibétains. En film, en images de la répression. Mais quand je suis arrivée, moi, j'étais forcément à la fois enthousiaste, heureuse, parce que ce Potala reste quand même un joyau qui est au-dessus des immeubles. On voit cette montagne, ce Potala qui a été le palais des Dalai Lama. Donc il reste une magie, il reste quelque chose de très fort. Mais très vite, moi en plus, j'étais beaucoup sortie des autorisations qu'on m'avait données le long du CAM, où j'aurais pas dû normalement voyager à pied. J'étais accompagnée par un officier de liaison, donc c'était le seul moyen pour moi de pouvoir gagner Lhasa. Et j'étais recherchée en fait à Lhasa. Donc il a fallu que je joue beaucoup d'aller d'un endroit à l'autre pour pas être trouvée. Et il a fallu que je parte très vite parce que je pouvais pas rester, sinon j'étais expulsée du Tibet. Donc je suis pas restée très longtemps à Lhasa. J'avais pas très envie d'y rester très longtemps parce que c'est terrible quoi. On voit des vieilles tibétaines qui arrivent de l'Amdo, du Kham, toutes les régions du Tibet, parce que ça reste la Mecque des Tibétains à Lhasa. Donc ils viennent en pèlerinage et vous voyez ces vieilles tibétaines d'un autre âge qui sont confrontées à une petite chinoise habillée des pieds à la tête en Prada. C'est vraiment le choc des générations, des cultures, de tout. Et y a des bars, il y a des boîtes de nuit, il y a des cybercafés dans tous les sens où on propose aux Tibétains de jouer à des jeux débiles toute la journée pour rien du tout, pour les rendre complètement abrutis devant leurs jeux vidéo. Enfin, y a de l'alcool qui est distribué, il y a une espèce de violence comme ça, un peu tyrannique. Chinoise, où on sent en permanence voilà, les militaires qui sont là, les chars qui passent dans la ville. Donc la tristesse des vieilles Lhasapa qui observent tout ce qui se passe autour d'elles. Donc forcément, après avoir marché pendant des semaines, des mois au Tibet, quand vous arrivez à Lhasa, c'est pas du tout la joie, quoi. C'est pas comme quand on arrive directement à Lhasa où tout d'un coup, ouais, c'est très exotique. Moi, j'avais le sentiment vraiment d'être au cœur de la tragédie qui se passe au Tibet et d'avoir qu'une envie, c'était de la laisser derrière moi, quoi.
Tu étais recherché, tu pouvais pas rester longtemps à Lhasa, pourquoi ? Qui c'est qui te recherchait ? Pour quelle raison ?
C'était le gouvernement chinois, tout simplement, parce que j'étais sortie des sentiers qui m'étaient autorisés par rapport à des permis que j'avais. J'avais pas suivi forcément les routes qui m'étaient autorisées de suivre, donc j'avais été arrêtée plusieurs fois, on m'avait à chaque fois mis remis sur les routes où j'avais le droit d'aller, sur les chemins, et donc le Politburo chinois, voulait pas que je reste à Lhasa, ça voulait savoir exactement ce que j'avais fait. Et l'officier de liaison qui était avec moi était un Tibétain qui devait noter à la lettre chaque chose que je filmais, les rencontres qu'on faisait, avec qui je parlais, avec qui je discutais. Et donc du coup c'était particulier parce que arrivé à Lhasa, voilà, je savais il y a une petite auberge dans laquelle j'étais avec des Tibétains qui m'a tout de suite prévenue en disant que voilà, il y avait un message qui était passé dans tous les hôtels, savoir qu'on me recherchait et que si j'étais dans cette auberge, il fallait prévenir voilà, la police qui voulait m'interroger. Et donc je savais pourquoi ils voulaient m'interroger. Donc il fallait juste partir, c'est tout.
Pourquoi cette répression ?
La répression en Chine, en Tibet. Pourquoi cette répression ? Bah, c'est toute l'histoire. La répression, elle est depuis la révolution culturelle, depuis 1950. C'est la grande marche de Mao, qui considère que le Tibet fait partie de la Chine depuis toujours. Donc c'est le grand débat qu'il y a entre les tibétologues, entre les Chinois, qui considèrent que le Tibet est une province de la Chine, alors que les Tibétains et les tibétologues disent que le Tibet est un pays à lui-même depuis toujours. Donc de là, depuis 1950, ces deux pays se sont fait la guerre depuis la nuit des temps. Simplement, en 1950, c'était encore un pays assez féodal, le Tibet, le Dalai Lama, le 14e Dalai Lama le dit lui-même qu'il n'a pas eu le temps, il était trop jeune pour moderniser son pays, l'ouvrir un peu à cette théocratie qui enfermait beaucoup le Tibet. Et ça a été la grande marche de Mao et la grande marche des chars et 6000 monastères qui ont été détruits, plus d'un million de Tibétains qui ont été massacrés, la fuite du Dalai Lama parce qu'il n'y avait pas d'autre choix et des milliers de Tibétains qui l'ont suivi. Et depuis, voilà, c'est... C'est une répression qui continue, un génocide religieux et culturel à tous les niveaux. Le Dalai Lama, depuis son prix Nobel de la paix en 89, demande à avoir un dialogue avec le gouvernement chinois pour avoir une autonomie. Donc on joue sur les mots, mais c'est très important. C'est pas une indépendance, mais une autonomie religieuse et culturelle, et de laisser l'économie, de laisser les frontières militaires, de laisser la géopolitique aux Chinois, mais de permettre à la culture de ne pas disparaître au sein du Tibet. On peut plus enseigner l'écriture dans les écoles. Il n'y a pas de liberté de culte dans les monastères. Donc tout ça, c'est un peu de la façade, quoi. Donc la vraie culture tibétaine, elle rayonne hors de ses frontières. Donc la répression, depuis 2008, c'est qu'au moment des Jeux Olympiques, c'était un formidable moyen pour essayer de demander à la communauté internationale de se mobiliser enfin pour le Tibet, qu'on ne pouvait pas laisser faire ce génocide, parce que forcément, économiquement, le Tibet ne pèse rien à côté de la Chine et des accords économiques mondiaux. Simplement, cette communauté internationale en 2008 n'a pas beaucoup agi. Donc ça a été associatif, ça a été un grand mouvement des associations qui se sont mobilisées, du mouvement Free Tibet, qui a été très mal interprété parce que finalement, il aurait fallu plus peut-être mettre la lumière sur les non-respect des droits de l'homme, sur la répression en Chine, de montrer, voilà, on en parle aujourd'hui de ce prix Nobel de littérature qui est enfermé et qui ne peut pas le recevoir chinois. Donc plutôt de montrer ce qui se passe de la répression de tous les dissidents, même chinois, qui sont voilà, enfermés, tués, que de parler que de ce petit peut-être mouvement tibétain qui fait que les Chinois, le gouvernement chinois s'est servi de ça pour dire, mais regardez, comment tous ces gens nous donnent des leçons alors qu'ils ont été les plus grands colons de la Terre, et aujourd'hui, on nous donne des leçons sur la manière de gérer le Tibet. Donc ça a été très mal interprété, en tout cas en Chine, ce qui a recréé un mouvement très nationaliste au sein des Chinois, et qui n'a pas permis de faire avancer le débat. Donc depuis 2008, la répression a été très forte, parce qu'il y a eu vraiment un mouvement de révolte chez les Chinois, même si le Dalai Lama demandait et redemandait cette voie du milieu de non-violence et que pour lui, il poursuit cette voie du milieu, même si aujourd'hui, il se retire de la vie politique. Beaucoup de jeunes tibétains disent « Mais le Dalai Lama est un Bouddha vivant. Nous, on ne sommes que des êtres humains avec beaucoup d'injustices et de sentiments qu'aujourd'hui, la voie du milieu n'a pas marché et qu'il faut aujourd'hui montrer notre révolte, essayer de faire autrement pour essayer de récupérer notre pays, nos droits. On ne peut pas, comme ça, subir la répression qui ne nous rend pas heureux, et montrer qu'en tout cas, une chose que les Chinois n'auront absolument, en tout cas le gouvernement chinois, je ne veux pas, encore une fois, pour les personnes qui nous écoutent, qu'on mélange tout, qu'on parle de gêner, d'amalgame et de mélanger tous les Chinois en général, hein, mais que le gouvernement n'a pas réussi, malgré tout ce qui s'est passé depuis 50 ans, à détrôner cette foi qui tient ce peuple, hein, et qui est magnifique. Thank you.
le bouddhisme, est-ce que ça peut être une chance finalement la montée du bouddhisme en Europe et dans le monde pour les Tibétains et leur culture?
Alors, c'est vrai que bon, moi je suis toujours un peu... quand on écoute un peu les grands textes, on se dit que finalement la religion elle est la même, que qu'on soit hindouiste, catholique, bouddhiste, musulman, enfin voilà, c'est vrai que... Il y a tous les grands courants de foi sont quand même avec une source qui est la même. Maintenant, le Dalai Lama lui dit tout le temps, choisissez la foi qui vous convient. Moi, je ne vous dis pas qu'il faut se convertir au bouddhisme. Maintenant, suivez la foi qui est proche de votre cœur et qui vous permet d'être dans ce chemin d'initiation. Je suis très réticente à tous ces grands mouvements de gens qui se disent bouddhistes alors qu'ils sont allés écouter une conférence du Dalai Lama à Bercy, et c'est quand même un peu plus compliqué que ça d'être bouddhiste. Faut apprendre les textes, faut faire une retraite, enfin c'est tout ça, ça prend quand même beaucoup de temps et ça demande un vrai chemin. Donc je crois que, en tout cas, cette forme de pensée, cette philosophie, tous les préceptes du bouddhisme sont... dans une direction qui est extrêmement positive. On le voit aujourd'hui avec tout ce qui se passe dans les pays arabes. Il y a une volonté d'essayer de trouver aujourd'hui une justesse d'égalité dans les pays. Et le bouddhisme, en tout cas par le précepte, le bouddhisme tibétain et les préceptes du Dalai Lama, sont une voie, j'espère, qui pourront être une voie suivie par beaucoup de nos pays dans le futur, et qu'on arrive à trouver par le dialogue des compromis, et de plus passer par les armes, de plus passer par une violence, de plus passer par la guerre. Je pense que notre histoire est suffisamment chargée comme ça depuis toujours, et que les livres d'histoire sont bien rouges du sang qui a coulé, et qu'aujourd'hui il serait temps de pouvoir montrer que notre humanité, notre intelligence nous permet de passer par le dialogue nécessaire à la résolution des conflits, et plus par les armes et plus par la violence.
Je vais te laisser partir bientôt. Donc là, on est à Paris au cinéma MK2. Donc il y a une expo photo à toi dans le sous-sol du cinéma. Il y a un DVD aussi. Donc qu'est-ce qu'on peut trouver dans ce DVD pratiquement ce DVD en quelques mots?
Et ce DVD, en fait, c'est vraiment le film de cette expédition. Donc c'est un film de 75 minutes sur l'expédition que j'ai tournée, avec une petite caméra. Petite caméra Sony que j'avais avec moi, que j'ai prêté beaucoup aux gens. Donc c'est vraiment l'aventure de ce voyage. Et puis il y a plein de bonus. Voilà, donc il y a derrière la caméra comment j'ai filmé, parce que les gens se demandent toujours comment on fait pour filmer seul. Il y a plein de bonus, plein d'images que j'ai pas pu mettre. Et puis plein de choses autour d'Alexandra Davinel, du Tibet. Voilà, donc il y a plein de choses dedans. Et puis le livre qui vient de sortir chez Actes Sud, c'est vraiment un album photo. La chance que j'ai eue, c'était de pouvoir demander à la dernière secrétaire d'Alexandra Davinel, Marie-Madeleine Perronnet, qui a passé 10 ans auprès de la grande dame, de m'écrire un texte. Elle a 80 ans aujourd'hui, ça fait 50 ans, 40 ans maintenant qu'elle est au service de la grande dame en nouveau posthume, donc c'est incroyable, toute sa vie elle l'aura consacrée à Alexandra, et c'était joli de pouvoir avoir un texte d'elle qui raconte les années passées auprès d'elle et cet acharnement au travail, à l'étude, à l'exploration qui étaient vraiment les deux passions d'Alexandra. Et puis un texte d'André Velter, qui est un des plus grands poètes de ce siècle, qui a tellement... traîner ses bottes de milieu en Asie, qui a vraiment les mots de l'âme, et c'est d'écrire l'Himalaya avec une telle poésie pour le décrire dans ce sentiment de troisième pôle, de continent en élévation, donc qui a été un très beau texte sur l'Himalaya.
Merci Priscilla.
Merci à vous, bonne journée.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs, partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Merci Priscilla. Retrouvez son émission sur le site de Regarde ailleurs, www.regardaiders.org.